Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question Internet, résiste-t-il à tout ? Alors, pas de complément d'enquête de Thibaut aujourd'hui, parce que c'est un dispositif un peu particulier. En revanche, un son, ce sera du Brian Eno. Quant à nos invités du soir, Amaël Guiton et Antonio Cassilli, pour discuter 10 idées reçues sur Internet. Nous sommes presque au mi-temps du week-end que France Culture a choisi de passer sur la toile. Près de 20 émissions qui, tout au long de ces deux jours, s'emparent des questions numériques qui les déplient, chacune à leur manière. Juste après nous, Elisabeth Chungi parlera du rôle d'Internet et des machines dans la création musicale. Colette Fellous, un peu plus loin dans son carnet nomade, se rendra au pays des geeks. Et puis, ça continuera demain, où il sera question de cris et d'aboiements dans Tire ta langue, etc. Jusqu'à Hélène Azera, dimanche soir, qui recevra la Parisienne libérée. Bon, pour nous, évidemment, qui sommes en permanence sur la toile, qui avons le nez sans cesse dans ces questions numériques, la tâche est paradoxalement plus compliquée. Donc, on a choisi une voie de traverse, mais qui constitue aussi une forme de diagonale implicite à ce week-end. C'est de nous intéresser au discours sur le numérique, et même au discours commun, aux idées reçues. Alors, on a relevé 10 idées reçues, et on va les discuter les unes après les autres. Alors, ces 10 idées reçues, elles sont c'est pas complètement arbitraires, mais enfin, il y en a certainement d'autres. Ce ne sont pas forcément des idées bêtes. Hein. Notre travail ne va pas consister à dire que ceux qui pensent comme ça ou qui disent cela sont des imbéciles, mais à essayer de complexifier, parfois, et évidemment, essayer de les contrer, mais en tout cas, de les rendre peut-être plus complexes qu'elles ne l'apparaissent. Alors, pour se livrer à ce travail compliqué, puisque 10 idées reçues en 50 minutes, moins les génériques, ça fait à peu près 4 minutes par idée reçue, dont certaines pourraient faire à peu près une dizaine d'émissions, et d'ailleurs, on fait une dizaine d'émissions. Amaël Guiton, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous n'êtes pas encore une habituée de Place de la Toile comme Antonio Cassilli, mais je vous annonce solennellement que vous êtes en passe de
Ah, c'est formidable, voilà. Vous m'envoyez ravie.
c'est pour vous mettre à l'aise tout de suite. Vous êtes donc journaliste indépendante, évidemment on vous a entendu au Move, dans la matinale du Move. En ce moment, vous travaillez beaucoup pour Slate, vous êtes l'auteur d'un livre sur les hackers au cœur de la résistance numérique, c'était Au Diable Vauvert, et puis vous tenez un blog qui est toujours très intéressant, qui s'appelle Technopolis.net. Et puis Antonio Cassilli, donc, alors vous habitué de Place de la Toile, vous enseignez à Télécom Paris Tech et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je cite le dernier qui est paru tout récemment chez Springer, ce qui est très chic de Paris.
Oui, c'est chic. Allemand, voilà. Donc,
alors en revanche, le titre, vous allez le dire.
Le titre est en anglais, c'est Against the Hypothesis of the End of Privacy, donc voilà. Contre l'hypothèse de la fin de la vie privée.
Un livre que vous avez coécrit avec Paola Tubaro, qu'on avait reçu ici même, et Yassam Sarabi. Alors, je vais énumérer rapidement les 10 idées reçues qu'on va démonter, travailler. Alors, premièrement, on parlera de Internet, c'est le virtuel. Première idée reçue. Voilà. La deuxième, Internet, c'est l'accélération du temps. Notre temps s'accélère. Troisièmement, nous sommes addicts à nos outils. Quatrième, Internet, c'est une jungle, le lieu des rumeurs, de la circulation virale, du harcèlement, etc. Cinquième, les réseaux sociaux galvaudent l'amitié. La sixième, Internet, c'est la fin de la vie privée. Septième, Internet, c'est le nombrilisme généralisé. Huitième, les digital natives ne sont pas comme nous. Les natifs du numérique ne sont pas comme nous. Neuvième, Internet, c'est le règne de la gratuité. Et dixième, Internet, c'est le triomphe de l'individu. Voilà, alors certaines évidemment se recoupent, tout ça c'est pas des ensembles clairement délimités, mais commençons par une petite question simple. Internet, c'est le virtuel. Alors, c'est une idée qui vient exprimer, à mon sens, hein, après vous la discuterez, à la fois une expérience sociale, le fait qu'on ait des rapports non physiques avec des personnes, rapports à distance, mais aussi une impression, celle de l'immatériel, par exemple, les fichiers qui circulent et qui remplacent des objets, les disques, les livres, etc. Mais est-ce que tout ça fait pour autant d'Internet quelque chose de virtuel, Amaëlle Guiton ?
Ben moi, j'aurais tendance, pour le coup, à ne pas être d'accord du tout avec cette idée reçue-là. À partir du moment où Internet, c'est de la communication entre les gens, on ne peut pas dire que c'est virtuel. À partir du moment où Internet, c'est devenu aussi des rapports de force de plus en plus violents, et ça, on le voit, rapports de force politique, rapports de force économique, ça n'est pas virtuel. Et puis, peut-être pour commencer, d'ailleurs, Internet, c'est une infrastructure physique. C'est des tuyaux, c'est des câbles sous-marins, etc. Et on voit bien aujourd'hui, avec tout le débat dans cette ère post-Snowden où notamment l'Allemagne, la France réfléchissent à comment faire que justement nos données circulent de moins en moins sur les câbles américains, enfin comment en fait remettre des frontières dans ce qui au départ n'en avait pas, on se rend compte à quel point justement c'est une question qui touche aussi fondamentalement à l'infrastructure physique, donc tout ça n'est plus virtuel, si tant est que ça l'ait été un jour ou l'autre.
Même au territoire, Antonio Cassilli.
Alors, effectivement, si on pense à l'Internet des câbles, la matérialité est évidente, elle saute aux yeux. En même temps, l'expérience vécue de la plupart des utilisateurs n'est pas celle qui passe justement par l'infrastructure physique d'Internet. C'est pourquoi, quand, par exemple, moi ou mes collègues, nous faisons des enquêtes auprès des utilisateurs d'Internet, il nous revient constamment cette catégorie de l'opposition entre le virtuel et le réel qui est souvent décrit comme la « in real life », la IRL, on dit souvent dans le jargon d'Internet, pour décrire ce qui se passe au quotidien, ce qui relève du présentiel, ce qui relève du face-à-face, par opposition à ce qui est par contre la communication médiatisée par Internet. Or, ce que je pense, c'est qu'à un certain moment, l'idée ou la métaphore du virtuel a été utile comme parfois les mensonges sont utiles, parce qu'elle servait à décrire une nouveauté dans notre expérience quotidienne. Mais après, je pense qu'autour de 2010-2012, assez de voix, y compris la mienne, ont insisté sur le fait que le virtuel ne peut plus être défendu, qu'il s'agit ou s'est agi d'une parenthèse historique, que aujourd'hui nous ne pouvons plus dire, pour les bonnes raisons que Amaëlle a énoncées, nous ne pouvons plus dire aujourd'hui que notre expérience sur Internet est virtuelle, parce que elle est désormais caractérisée par une espèce de mise en boucle entre présentiel et non présentiel, entre très proche, très local, et très localisé et très éloigné. Et donc, il y a des allers-retours entre ces deux dimensions.
Et ça va peut-être d'ailleurs nous renvoyer à une question postérieure qui est celle des digital natives. Moi, j'ai l'impression que pour les générations qui ont toujours vécu avec le réseau et dont la socialisation passe notamment par le réseau, cette différence-là entre le monde physique et les relations qu'on établie sur le réseau, elle est de moins en moins claire, justement, parce que l'un est un prolongement de l'autre et réciproquement. Et
juste une petite relance, parce que j'avais eu cette discussion très rapidement à l'antenne avec Didier Sicard, le médecin, dans la matinale l'autre jour, et parce qu'il a utilisé le mot virtuel, je lui ai dit mais non, mais c'est aussi réel que le réel. Et il a dit, bon, d'accord, disons néo-réel.
Oh. Ah, c'est intéressant.
Ouais, ce serait donc un réel qui n'est pas exactement comme le réel. Ce n'est pas du virtuel, mais c'est un autre réel ou un réel qui va se superposer.
Oui, mais en même temps, là, disons que son point de départ, Didier Sicard, était justement la contraposition entre l'expérience directe, par exemple, du toucher du médecin, l'examen clinique, et l'imagerie médicale, l'imagerie 3D surtout. Donc, il avait écrit plusieurs livres à ce sujet. Et l'opposition est ça, entre le moment où il y a quelque chose de tangible et quelque chose qui relève de l'immatériel. Donc, de son point de vue, je dirais pas que ça se défend, mais je vois d'où l'idée vient. Si on parle d'idée reçue, comment on a reçu cette idée. Voilà, on voit le parcours. En même temps, moi, j'ajouterais aussi que si on revient aux gens qui sont issus de ce qu'on appelle d'une manière pas toujours correcte, à mon avis, génération Y, c'est eux, au moment où on les interroge, c'est eux-mêmes qui nous renvoient constamment cette opposition entre l'Internet et l'IRL. Donc c'est eux qui emploient davantage.
Puisque vous en venez à cette question, je pensais l'aborder plus tard, mais abordons-la maintenant, la question des digital natives. Non, mais c'est vrai. Bon, donc l'idée, alors les digital natives, c'est une expression qui existe, qui a été créée par un type qui s'appelle Mark Prinsky au départ, et qui décrit les gens qui sont nés dans un monde où l'Internet existait déjà, qui ont grandi dans un monde où l'Internet existait déjà. Et c'est un cas intéressant parce qu'en gros, on va pas discuter la notion elle-même, mais peut-être l'idée qu'elle sous-tend et qui est accréditée, c'est intéressant à la fois par les technophiles et les technophobes, pour caricaturer, ce serait Alain Finkielkraut d'un côté et Michel Serres de l'autre, que l'humanité aurait vécu une sorte de révolution anthropologique et que ces gens donc ne seraient pas comme nous. C'est un peu ça, l'idée. Qu'est-ce que vous en feriez de cette notion l'un et l'autre, Amaëlle Guiton?
Alors, est-ce que c'est eux qui ne sont pas comme nous ou nous qui ne sommes sommes pas encore comme eux. C'est peut-être plutôt comme ça, moi, que je le poserais, parce que c'est vrai que finalement, avant qu'Internet devienne grand public, le même type de questions se posait, par exemple, au moment de l'apparition du magnétoscope. Enfin, les gens qui étaient déjà des adultes faits, qui ont vu arriver les magnétoscopes, étaient toujours étonnés de voir des enfants qui, au bout de 10 minutes, étaient capables de se débrouiller avec ces nouveaux appareils, alors même qu'ils n'avaient pas lu le mode d'emploi. Donc, c'est du point de vue de l'appréhension technique, c'est effectivement les natifs du numérique ont plus de facilité probablement à prendre en main ces outils. Alors après, l'autre question est effectivement comment est-ce que la socialisation par le réseau et l'utilisation du réseau modifient nos structures cognitives ? Ça, c'est encore autre chose. On n'a peut-être pas suffisamment de recul aujourd'hui, mais en tout cas, il y a pas mal de... Peut-être qu'Antonio Cassini en sait plus que moi là-dessus. Il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus. Il y a pas mal de recherches.
Il y a en effet pas mal d'études qui nous disent d'abord que effectivement, l'imaginaire des enfants plongés dans le numérique existe avant même l'arrivée du web. C'est-à-dire qu'avec la micro-informatique des années 80, déjà, on avait commencé avec ce type de discours. Si vous regardez, et moi je l'ai fait pour analyser des corpus de presse, à partir des années 80 et 90, vous voyez certains paradigmes anthropologiques qui commencent déjà à s'affirmer. Par exemple, celui du computer kid, donc l'enfant de l'ordinateur, qui est là avant le digital natif des années 2000.
Et on lui prête quoi comme caractéristique ?
On lui prête pratiquement les mêmes capacités incroyables de savoir maîtriser ces machines, être complètement mélangé, hybridé avec ce type de technologie. En même temps, moi j'insisterai, et ça c'est une autre partie des études qui s'efforce de complexifier l'idée reçue de la génération Y, j'insisterai sur l'effet d'injonction de la part des parents.
Ça c'est sûr. Et pas que des parents, et du monde du travail aussi.
Ouais, alors ça arrive après. Pour un enfant qui a un an ou deux ans, le monde du travail, ce n'est pas encore d'actualité. Ça peut arriver, ça arrivera peut-être. Mais enfin, voilà, la question est que derrière, et ça je dis toujours, derrière tout enfant d'un an qui est capable de tapoter sur un iPad, il y a un père qui lui a acheté un iPad. C'est le plus souvent des cas, c'est le père.
Mais ceci étant, j'ai jamais vu, par exemple, de différence profonde dans l'appréhension d'Internet entre quelqu'un qui était de la génération plan informatique pour tous, pour le dire rapidement. C'est-à-dire qu'il avait vécu cette espèce de période bénie au milieu des années 80 où on a dit aux enfants, vous allez apprendre l'informatique à l'école, apprendre
le
la programmation.
Pascal.
Voilà, exactement. Ou le basique, ou le logo, etc. Et j'ai jamais vu de différence entre ces gens-là, c'est-à-dire qui ont mis les mains dans les ordinateurs à cette époque-là, et des gens plus jeunes qui y ont mis les mains de la même manière. Et en revanche, dans la génération Y, il peut y avoir des différences entre les gens qui apprennent la programmation, donc qui ont une maîtrise technique de l'outil, et ceux qui sont uniquement utilisateurs des applications, des réseaux, etc. Ouais. On n'a pas forcément la même appréhension. Donc, c'est une génération qui n'est pas uniforme, je dirais.
Bien sûr, mais peut-être qu'on peut déplacer la question du maniement de l'outil, qui est un des aspects qui pourrait caractériser cette génération, à autre chose qui est, par exemple, vous parliez tout à l'heure à Maëlle Guiton de la socialisation, mais peut-être on n'a pas le temps, mais disons, un aspect, ce serait la question de la constitution de l'identité, par exemple. Oui. Et moi, je me dis, voilà, quelqu'un qui est né avec multiples identités sur les réseaux, pseudo, ouverture de compte, fermeture de compte, etc. Alors, on pourrait dire, c'est un peu la même chose que devenir goth pendant 6 mois, et puis après, hard rocker et machin, comme on a essayé de le faire tous, et poète et rimbaldien pendant 6 mois après. Bon, voilà, mais qu'il y a peut-être là des choses qui peuvent... peut-être changer un petit peu, je ne sais pas.
Oui, mais moi, vous insistez sur la question de l'identité, de la création de l'identité, mais moi, j'insiste aussi sur le fait de vouloir insister sur ce tout homogène de la génération Y, qui serait la génération Y, gomme les différences qui sont aussi des différences qui soutiennent des inégalités sociales, des inégalités même en temps de niveau socio-économique. Ils ne sont pas tous pareils. Bien justement, sûr. Les études de quelqu'un qui est très connu par les auditeurs de France, de Place de la Toile, qui est Dana Boyd. Insiste sur le fait qu'il y a une différence qui est due aussi au fait d'être à un certain point par rapport au seuil de pauvreté ou d'avoir un besoin de rechercher les meilleures offres commerciales et donc de ne pas pouvoir jouer aux jeux vidéo tout le temps. Voilà, il y a des différences très importantes aussi au sein de la génération Y.
On passe peut-être à la suivante, ça va très vite.
C'est terrible
parce que c'est des sujets à chaque fois.
C'est un tournoi du Moyen-Âge.
Voilà, c'est exactement. Non, mais de toute façon, c'est l'idée, c'était un peu l'idée de l'émission, quoi, c'est d'aller très vite et de complexifier comme ça très très rapidement. Voilà. Bon, mais on essaye de tenir quand même parce que si on annonce 10 idées reçues puis qu'au final on n'en fait que 7, en même temps j'aime taire. Bon, donc du coup, Troisième idée reçue. C'est la question de l'accélération du temps. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un sentiment dont Internet n'est pas considéré comme la seule cause, évidemment.
La radio aussi. Et aujourd'hui, nous le démontrons parce que nous allons très vite.
C'est vrai. C'est vrai que la télévision aussi, les chaînes d'information en continu participent à ça. Mais c'est que via le flux continu, la vitesse de diffusion de l'information, la connexion permanente, on a l'impression d'être assailli, qu'on n'a plus le temps et surtout qu'on a moins le temps qu'avant. L'ancienne. C'est ça, l'idée d'accélération. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de ce sentiment d'accélération?
C'est vrai qu'il y a une accélération concrète de la communication. Ça, c'est indéniable. Mais après, est-ce que c'est pas aussi... finalement, Internet, l'Internet grand public, à quel âge aujourd'hui? Ça a quoi? Ça a 20 ans? Enfin, on est encore, dans l'adolescence d'Internet, on a aussi... Il y a des choses contradictoires. Enfin, on voit bien aujourd'hui, par exemple, comment certains pure players peuvent, entre guillemets, se tirer la bourre pour sortir l'info, les premiers, etc. Donc, il y a cette espèce de course, effectivement, à avoir le plus de clics le plus vite possible. On voit bien aussi comment des formats, justement, qui prennent le temps, du format long, reviennent s'imposer. Il y a des choses qu'on n'entend plus, qu'on entendait encore il y a 10 ans, du genre, il ne faut pas écrire plus d'un ou deux feuillets pour un papier en ligne sur Internet,
parce que ça
ne sera pas lu. Bon, on est quand même en grande partie sorti de ça, fort heureusement. Donc, il y a des mouvements contradictoires. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'Internet, c'est aussi l'archivage à grande échelle.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, on a à la fois effectivement le sentiment que tout va très vite et en même temps, le sentiment que tout reste et de la constitution d'une mémoire qui va en s'accroissant. Un projet comme Internet Archive est exemplaire de ça, de ce point de vue.
Qui archive Internet. Ouais.
Ou la NSA qui archive tout.
Dans un autre genre.
Ouais, dans un registre. Mais moi, je dirais aussi que, par contre, l'idéologie de l'accélération est caractéristique de toute une culture technologique qu'on a héritée du XXe siècle. Si on remonte à 1909, parution du manifeste futuriste de Filippo Tommasi Marinetti, c'était ça. C'était l'idée que la technologie va accélérer notre vie et que nous, on doit embrasser ce changement. Or, la question est que qui dit accélération dit aussi, et là je vais faire un peu mon Hartmut Rosa, va dire aussi qu'on peut faire plus choses, plus de tâches dans la même minute ou la même heure. Donc c'est l'idée du multitasking, du multitâche. Alors évidemment, la colonisation de notre temps par ce type d'accélération technologique, par ce fait d'avoir plus de puissance, pouvoir faire plus choses dans la même période de temps, à un certain moment se heurte à l'épuisement de notre temps humain. Temps humain est limité à 24 heures et d'ailleurs on ne devrait pas, on n'aurait pas dû jusque-là remplir 24 heures de travail. Or, ce qui se passe, c'est que justement face au type d'injonction technologique à laquelle on est exposé, notre sommeil même est peuplé par des tâches informatiques.
C'est-à-dire, vous rêvez de ça, vous?
Non, c'est pas question de rêver de ça, mais tout le temps, mon ordinateur est allumé, mon smartphone est allumé. On continue à avoir une présence.
Oui, il travaille pendant qu'on dort, en fait.
Mais en même temps, avec l'informatique des objets, donc les objets connectés, bientôt, et le quantified self, bientôt, le fait même d'être dans une phase de sommeil produit des données. Et donc produit de l'information. Alors, vous voyez que le type d'accélération veut dire effectivement colonisation de notre temps et s'articule avec des tendances qui existe depuis longtemps et que certains ont mis en évidence. Moi, je pense par exemple à un livre qui s'appelle 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de Jonathan Grary, qui a comme sous-titre Le capitalisme tardif et la fin du sommeil. Voilà, c'est justement ça. On ne peut plus. Parce qu'on est allumé tout le temps.
Et du coup, est-ce que c'est lié à ce qui est une autre idée reçue, qui est la question de l'addiction? Parce qu'il peut y avoir ça, c'est-à-dire que l'idée, est-ce que l'addiction, donc, qui consiste, c'est une idée connexe, évidemment, parce que est-ce que c'est cette pathologie, donc celle de l'addiction, qui rend compte du rapport qu'on a à cette connexion, et la nécessité qu'on aurait, qu'on ressentirait à cette connexion, et est-ce qu'on est au fond des sortes de victimes consentantes de cette drogue que serait la connexion, qui serait donc un des aspects de l'accélération. Vous commencez peut-être, Antonio Cassini, puis après Amaël.
La notion d'addiction quand il s'agit de numérique est extrêmement controversée. Même en France, on a vraiment deux écoles qui n'arrivent pas à trouver un compromis sur cela. Si je pense à un Stora d'un côté et un Yann Leroux de l'autre, c'est deux personnes...
Stora, c'est un psy.
Mais Yann Leroux aussi, c'est deux psys. Et donc l'un affirme que l'addiction l'addiction au numérique existe et doit être soignée, et l'autre, par contre, dit que non, c'est plutôt une espèce de ruse des psys. Bon, alors la question est que, effectivement, les études, pour l'instant, ne semblent pas avoir trouvé un compromis scientifique, un consensus scientifique. Si on regarde les métasynthèses, on n'arrive pas à le voir. Et de l'autre côté, la question de l'addiction est aussi liée au fait que c'est une addiction sans substance. Voilà, c'est une addiction comportementale.
Enfin, ça existe aussi, ça.
Ça existe. Alors,
enfin, l'addiction sexuelle, elle est sans substance.
Bien sûr, mais surtout, il y a un autre aspect qui, à mon avis, est important. Et que même si on peut refuser, au point de vue individuel, la question de l'addiction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément criminaliser les personnes ou stigmatiser les personnes parce qu'ils ont un usage excessif ou qu'ils sont dépendants de ces usages-là. Par contre, l'industrie ou certaines branches des industries numériques, elle s'efforce de produire de l'addiction, produits et des services addictifs pour créer de la dépendance, pour créer effectivement de l'usage 24 heures sur 24. Et là, on revient justement à l'idée de l'accélération et du temps. Et donc, même si on ne peut pas parler peut-être pour les êtres humains, au niveau de toute la société, on est en train de créer une forme de dépendance qui veut dire le fait de s'appuyer de plus en plus sur ces infrastructures, sur ces services.
Ouais, c'est pas mal, ça.
La question, c'est aussi effectivement à quoi on est accro. Parce que en tant que société, on est effectivement devenu dépendant d'un outil, mais comme on est devenu dépendant d'autres outils, quand on est devenu dépendant de l'électricité, de la voiture, etc. Après, sur le plan individuel, c'est toujours pareil. Moi, j'ai tendance à penser que les usages évoluent, se stabilise, s'affine. Il y a encore, je ne sais pas, 4-5 ans, hein, pour être vraiment dans le plus concret, des gens avec qui j'allais boire des cafés et qui avaient des smartphones passaient leur temps sur regarder leur compte Twitter, leur compte Facebook, à répondre à leurs mails, etc. On se rend compte que ce genre de choses se tassent.
Parce que vous êtes dans une avant-garde qui est déjà dans le post, la post-connexion.
Mais qui du coup apprend aussi à gérer ça, à gérer des temps de déconnexion et à faire en sorte de ne pas être dans la dépendance, finalement, d'ailleurs moins au réseau qu'aux données qu'on en reçoit,
En même temps, est-ce que dépendance est toujours synonyme d'addiction? Justement, être dépendant de quelque chose, je suis dépendant de l'eau courante, parce que sinon je ne pourrais pas laver ma vaisselle ou faire...
Ou vous-même.
Ou moi-même, justement. Mais en même temps, je ne peux pas dire que je suis accro à l'eau. La question de la dépendance est différente dans la mesure où la dépendance peut être vue comme une dimension sociale collective. Le fait d'être accro, c'est une question de stigmatisation individuelle. Donc, à mon avis, il faudrait faire une différence entre les deux.
Je suis assez d'accord avec vous. Bon, dernière idée reçue de cette première partie, alors qui pourrait elle mériter, je pense, 18 émissions, c'est l'idée de Internet comme jungle. Comme jungle. Et voilà, comme jungle, c'est-à-dire lieu de toutes les rumeurs qu'on ne peut pas arrêter, lieu où les réputations sont défaites et contre lesquelles on ne peut rien faire, lieu où les jeunes filles sont harcelées, un lieu où l'on crie, un lieu où on s'exprime sans règles et où le pire s'exprime.
On croirait entendre Frédéric Lefebvre.
Et c'est mon idole, vous savez. Le web 2.0, c'est la fameuse définition.
Ah non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où Internet permet une accélération de la communication, ça c'est indéniable, et offre à chacun la possibilité de la prise de parole, ça aussi c'est indéniable et c'est quand même un aspect, me semble-t-il, fondamental. Évidemment qu'il y a des dommages collatéraux. Ceci étant, dans le discours de Frédéric Lefebvre notamment, il y a l'idée que finalement, il n'y a pas de loi qui s'applique sur Internet. Et ça, c'est entièrement faux. Mmh. Enfin, si on incite à la haine raciale sur Twitter, on peut tout à fait être traîné en procès. La diffamation est punie, etc. Donc, les lois du monde physique s'appliquent aussi au discours sur le réseau. Il y a les mêmes dangers, finalement, que dans le monde physique. Donc, ce n'est pas plus une jungle. Et puis, alors, surtout, moi, il y a un aspect que je trouve intéressant, dont Dominique Cardon a pas mal parlé dans son petit livre « La démocratie Internet ». C'est la manière, justement, dont collectivement aussi, ces discours-là, ou en tout cas, par exemple, les rumeurs, sont débunkées de manière aussi beaucoup plus rapide.
Et se défend plus vite.
Moi, je sais qu'il y avait une expérience qui m'avait fascinée quand j'avais regardé le débat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, juste avant le deuxième tour, j'avais ma télévision devant moi et puis j'avais mon fil Twitter de l'autre côté. Donc, effectivement, il y a plein de journalistes dessus, etc. J'avais le fact-checking en direct. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un des deux candidats disait une connerie, je savais dans les deux minutes qu'il y avait eu une erreur et j'avais un lien, une source, etc. Bon. Et on imagine ce qu'une chaîne de télévision télé qui déciderait de s'appuyer sur un dispositif comme celui-là pourrait faire, et à quel point d'ailleurs ça mettrait en difficulté des hommes politiques, puisqu'ils ne pourraient plus dire, affirmer des choses. Et donc, du coup, il peut effectivement y avoir des rumeurs qui circulent extrêmement vite. C'est aussi le lieu où les rumeurs se défont le plus vite, je trouve.
Antonio Cassini.
Et en même temps, moi, j'insisterai sur l'usage politique de ces rumeurs. Parce qu'il y a pas mal, comme on a évoqué, les lois des États qui servent pour contourner, pour limiter cette circulation virale. Il y a une énorme ambiguïté de la part des pouvoirs publics aujourd'hui, en France comme ailleurs. D'une part, on cherche, grâce à des campagnes, par exemple, d'information, à créer des effets de viralité, mais on a peur de cette viralité quand, justement, elle tourne mal. Elle tourne dans un sens qui est incontrôlable. Je pense, par exemple, à une expérience qui est une expérience d'une loi, est une loi qui a été passée en Chine très récemment, ça s'appelle la règle des 500. La règle des 500 veut dire que vous risquez de choper 3 ans et demi de prison si une information que vous mettez en ligne est considérée comme problématique, c'est-à-dire fausse selon les pouvoirs chinois, et elle est retweetée par au moins 500 personnes, voire regardée par au moins 5000 personnes. Alors vous voyez qu'on a trouvé, vraiment une règle tout à fait pifométrique de dire pourquoi 500 et pas 5, pourquoi pas 300.
Surtout
pas
en Chine, 500, c'est
ça. Voilà, exactement. C'est vraiment très, très limité, si on considère la base. Et donc, du coup, effectivement, il y a cet usage politique des rumeurs, cette manière de, derrière les rumeurs, criminaliser certaines parties de la population d'Internet, des usagers d'Internet aussi.
Merci pour cette première partie. Donc, on a défait quand même 5 idées reçues, je trouve, avec une rapidité, une clarté qui est absolument définitive, parce qu'on n'a pas complètement invalidé tout. Je trouve... Je trouve très bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, 5 autres idées reçues. Mais tout de suite, Thibaut Henton, à qui on a demandé cette semaine d'examiner une autre idée reçue, qui s'est d'ailleurs donné à lui-même cette idée reçue, plus technique. Internet résiste-t-il à tout ?
Internet, c'est résistant. Ça aurait même été conçu pour ça par la recherche avancée américaine au départ, le réseau de communication censé résister à toutes les attaques. Mais Internet, c'est fragile aussi parce que c'est une interconnexion de réseaux hétérogènes et que l'interconnexion n'est pas garantie, elle suppose des investissements d'infrastructures. L'ancienne en la matière, c'est de dire Internet est globalement robuste et bien surveillé, donc vite réparé le cas échéant, globalement robuste donc, mais localement vulnérable. L'expression est de Pierre Colle. De fait, il arrive que la connexion s'interrompe un temps, un incendie ici, un câble coupé là, un bug logiciel ou un écureuil rongeur ailleurs, autant d'accidents qui peuvent avoir de grandes répercussions, selon qu'il y a un ou plusieurs câbles qui relient le pays ou la région concernée au reste du monde. Bref, la question de savoir si Internet est ou non résistant est en fait une question d'infrastructure. Pour qu'Internet soit résilient, qu'il soit capable de contourner les obstacles, la coupure accidentelle ou intentionnelle, il faut qu'il soit redondant. La redondance au niveau de l'infrastructure, c'est comme la sauvegarde en informatique en général. Ça consiste à s'assurer qu'il y a toujours au moins 2 voies de passage, 2 voies de connexion possibles. Un câble qui passe par la fenêtre, l'autre par la cheminée. Je prends l'exemple du FranciX, un des plus importants points d'échange français, un point d'échange où GIX est un endroit où les acteurs de l'Internet, les fournisseurs d'accès et de contenu interconnectent leurs tuyaux. C'est grâce à ces lieux, plus centraux que d'autres, plus sensibles aussi donc, que le maillage du réseau s'opère. Bon, donc, FranciX dispose de 8 points de présence, 8 data centers si vous voulez, à Paris. Et un à Marseille, mais je le laisse de côté celui-là. Ces 8 data centers sont interconnectés selon une architecture à double étoile, avec 2 sites dits de cœur qui sont interconnectés entre eux via 2 chemins de fibres distincts, 2 sites de cœur donc auxquels sont interconnectés les 6 autres sites. Voilà un exemple de redondance. Évidemment, une attaque coordonnée sur les 2 sites de cœur mettrait une belle pagaille, tout comme une attaque coordonnée sur les 13 serveurs racines du DNS, le Domain Name System dont on parlait la semaine dernière avec le président de l'ICANN, le système qui nous permet d'atteindre des pages web quand on tape une adresse URL dans son navigateur. C'est un système très hiérarchique, mais il reste très difficile de lui couper la tête, car cette tête est disséminée en plusieurs endroits et les clés pour y accéder stockées dans des boîtiers ultra sécurisés qui s'auto-détruisent si on les manipule. Bon, Donc, en fait, l'idée qu'Internet est résistant n'est pas une si mauvaise idée, à condition de bien comprendre qu'il ne l'est pas en soi.
Merci Thibault. Alors, on ne vous retrouve pas en fin d'émission, mais on écoute Brian Eno. Le morceau s'appelle Web, c'est l'extrait d'un album qui était intitulé NerveNet, daté de 1992, les tout débuts du web donc. Et ce morceau, effectivement, quand on l'écoute bien, a des airs d'une naissance. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Je vous rappelle qu'on s'intègre aujourd'hui dans un grand week-end que France Culture passe sur la toile, où l'on parle de diplomatie, d'économie, de musique, de poésie, etc. Et nous examinons 10 idées reçues, puisées dans l'ensemble des chroniques de Laurent Geoffrin à la fin de la matinale. Je pense qu'ils ont fourni 10 idées reçues depuis le début de l'année, à peu près. Alors on a examiné 5, il nous en reste que 5, je ne sais pas si on ira au bout, mais alors prenons-en une énorme. Énorme. Internet, c'est la fin de la vie privée. Cette question a fait l'objet au moins de 5 places de la toile. Il va falloir la régler en 4 minutes. Alors, je pense qu'il faudrait au moins la prendre en deux sens. L'idée que notre vie privée est exposée malgré nous, surveillance, data mining, etc. Donc, fin de la vie privée subie, disons. Mais aussi l'idée que les seuils se sont abaissés. Et que nous, et puis surtout les plus jeunes d'entre nous, les fameux digital natives dont on parlait tout à l'heure, qui n'existent pas, mais un peu quand même, etc., accordons de moins en moins de soucis à cette vie privée. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette formulation en deux temps ?
Moi, je serais pour le coup effectivement assez d'accord. Alors, il y a tout l'aspect à la fois de surveillance opérée par des agences de renseignement. Alors ça, on est en plein dedans depuis un certain temps et on n'en est manifestement qu'au début, hein, parce qu'il y a une toute petite partie des dossiers Snowden qui ont été exploités. Donc je pense qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Et puis, il y a effectivement de l'autre côté ce qu'on appelle les gros silos, hein, Facebook, Google, etc. Ça pose une vraie question, pour le coup, pour ce qui est de subir la disparition de sa vie privée, c'est comment on fait pour arrêter ça, c'est-à-dire pour réussir à casser cette espèce de partenariat public-privé qui à un moment donné s'est construit autour de la dissémination de nos données dans des gros data centers pour on imagine à un moment donné faire des analyses de big data, et ça c'est pareil, ça va aussi évoluer au fur et à mesure. C'est un vrai problème politique, c'est un problème politique solide. Il y a des solutions techniques, hein, il y a des gens qui réfléchissent justement comment rendre cette surveillance, ce monitoring de plus en plus coûteux pour qu'effectivement on revienne à de la surveillance classique, hein, de la surveillance ciblée. Mais c'est surtout effectivement, et aussi un problème politique. Sur le fait qu'on doive renégocier, alors est-ce qu'on accorde de moins en moins d'importance vie privée, ou est-ce qu'on est aussi en phase de renégociation de ce que veut dire la vie privée ? Il me semble évident qu'il y a des choses qui vont évoluer d'elles-mêmes. Ne serait-ce que parce que effectivement, enfin, on imagine tout ce que vont permettre, par exemple, les algorithmes de reconnaissance faciale à court terme. Si en tapant une recherche dans Google, on peut avoir accès à votre photo, mais sur des profils pseudonymisés. Donc elle est où la vie privée ? Effectivement, ça pose énormément de questions. Il y a aussi autre chose qui m'interpelle pas mal, c'est la question du droit à la disparition, j'allais dire. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on n'est pas sur Facebook, quand on n'est pas sur Google+, on est quasiment suspect, finalement. Jusqu'à quel point on va encore avoir droit à la disparition ? C'était un peu le débat qu'on avait eu il y a quelques semaines maintenant, autour avec de cette notion de darknet. C'est qu'est-ce qu'on fait de la capacité aussi, à un moment donné, de s'abstraire de cette espèce d'œil qui est sans arrêt au-dessus de nous.
Mmh, Antonio Cassini.
Bon, ce serait vraiment trop, trop difficile dans la minute qui reste à notre disposition de pouvoir traiter bien la question de la disparition de la vie privée. D'autant plus, voilà, vous l'avez évoqué, on vient de publier un livre sur ça, sur le fait de dire, bon, non, elle ne disparaît pas, au contraire, elle se transforme. Elle se transforme au point qu'elle devient méconnaissable. Et comme elle est méconnaissable, nous avons presque l'illusion qu'elle soit disparue. Et c'est vrai, et j'ajouterais, que dans cette illusion, on est un peu aidé par certains acteurs, grands acteurs industriels, surtout des géants du web, qui voudraient nous faire croire que depuis quelques années, on est à l'aise avec la transparence absolue. Je pense à certaines prises de position publiques de Mark Zuckerberg qui a affirmé que « public is the new norm », alors le public est la nouvelle norme, ou alors de Vint Cerf qui a dit que historiquement, la vie privée a été une anomalie et qu'on va revenir en arrière à ce type de communauté idéalisée, rurale, dans laquelle tout le monde savait tout sur tout le monde, et ainsi de suite.
Donc Facebook et Google. Zuckerberg, c'est voilà, Facebook, et Google, Vint Cerf, c'est Google.
Et c'est Google. Donc voilà, c'est les deux géants du web qui portent un discours moral. Un discours moral qui pousserait les utilisateurs à accepter. Donc c'est un discours, finalement, encore une fois, d'acceptabilité de quelque chose qu'en tant que producteur de services, ils cherchent à faire passer auprès de leurs utilisateurs. Il y a ça et il y a aussi le fait qu'ils oublient de raconter la deuxième partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire est qu'il y a une très forte résistance de la part des utilisateurs, lesquels sont engagés depuis des années et des années dans une véritable guerre culturelle autour de la protection de la vie privée.
Si et les conditions d'utilisation, notamment conditions, de Facebook.
Ben justement, vous avez dit un mot qui est le mot central de notre livre sur la vie privée, qui est le mot de négociation de la vie privée. La vie privée est devenue, elle était un droit individuel dans le 19e et le 20e siècle, elle est devenue une négociation collective. Et si c'est une négociation collective, elle porte, par exemple, sur les conditions d'usage des plateformes sociales, elle porte aussi sur ce qu'on partage, elle porte aussi sur quelles sont les institutions qui ont un droit de regard et éventuellement de sanction. Et c'est bien pour cela que je renvoie constamment à ce qui s'est passé pour Facebook en particulier, même si Facebook cherche à nous vendre cette transparence absolue, ça fait 10 ans que Facebook fait face à des réactions de la part de usagers organisés, Federal Trade Commission, la CNIL en France, la CNIL allemande, la CNIL espagnole, la CNIL irlandaise. Donc il y a effectivement une véritable guerre.
Ouais. C'est autre chose. Ouais. C'est pas pour rien qu'une institution comme le Conseil national du numérique, alors qui certes ne fait que donner son avis, mais tout de même pousse aujourd'hui à un débat et en France et au niveau européen et au niveau international pour des textes protégeant les données des utilisateurs. Donc on sent bien que c'est devenu effectivement très très politique.
Alors qu'est-ce qu'on fait de cette autre idée reçue qui est connexe à celle-ci, qui est celle du nombrilisme ? Non mais qui est pas loin, parce que là vous avez évacué très rapidement l'idée que bon, on s'exposait aussi volontairement sur Internet. Et donc ça, cette idée, alors là j'emprunte directement à Laurent Geoffrin, hein, il en a fait une chronique la semaine dernière, en disant voilà, bon, voilà, sur Internet, tout le monde veut se montrer que soi, il y a que ça qui intéresse les gens, de parler d'eux, etc. Bon, voilà.
Mais c'est, en fait, il prend pas le problème de la bonne façon, c'est pas tout le monde veut se montrer, c'est tout le monde a le droit de se montrer. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, à partir du moment où tout le monde a le droit de se montrer, il y a des gens qui vont se montrer. Ça, c'est évident. C'est le fait de permettre à de plus en plus de gens de s'exprimer sans forcément devoir envoyer un article à un journal.
Ou devenir une star avant
de
s'intéresser à soi.
Ou être un people, on peut effectivement raconter ses états d'âme. Ceci étant, ça trouve quand même sa limite. C'est-à-dire que si on n'a rien d'intéressant à raconter, ou en tout cas si la manière dont on le raconte n'a rien de particulier, on ne va quand même pas intéresser au-delà de son réseau. Quoi. Ça, c'est quand même... Donc oui, c'est forcément limité. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que quand on dit nombrilisme, on pense souvent hyper-individualisme, égoïsme, etc. Et ça, on se rend compte qu'Internet, c'est aussi l'espace du travail collaboratif. Donc ça dépend aussi ce qu'on entend par nombrilisme.
Ah oui, d'accord. Antonio Cassini, on va
je risque encore une fois de faire du Dana Boyd à la française, mais la question est que...
On aime tellement.
La question, c'est toujours que se montrer, c'est se montrer pour les autres, pour être reconnu par les autres. Donc c'est une démarche de reconnaissance qui est une démarche de reconnaissance collective. Bon, évidemment, je parle en sociologue et donc en tant que sociologue, je vois dans la socialité partout, là où d'autres pourraient voir du nombrilisme, de l'égoïsme, de l'aliénation et ainsi de suite. Alors, mais c'est clair que si on regarde même seulement les structures sociales qui se mettent en place sur les réseaux aujourd'hui, il y a des effets de densité, il y a des effets de collectivité aussi, de création de collectivité qui sont tellement fortes qu'aujourd'hui, vraiment, dans un contexte qui est évidemment un contexte qui incite à la connexion, c'est difficile de voir l'isolement, c'est difficile de voir un individu qui est capable de vivre seul ou alors d'être effectivement concentré sur son nombril, si l'on veut. Mmh. Donc il y a toujours, constamment, même quand on est en train d'exprimer quelque chose d'extrêmement personnel, la validation qu'on commande, qu'on invite de la part des autres. Toute expressivité de soi devient une expressivité de nous sur Internet. Ouais. Pour moi, c'est impossible.
Et puis il y a des usages, en plus, pour le coup, qui sont quand même assez variés. On raconte plus de choses de soi sur Facebook, typiquement, parce que c'est un réseau... on y construit des réseaux, effectivement, d'amis, c'est beaucoup plus familial. L'usage de Twitter n'est pas du tout le même. L'usage du blog, aujourd'hui, est devenu très différent. Donc, ça dépend aussi des espaces d'expression. Hein, pour le coup, l'exposition de soi à destination des autres n'est pas la même selon là où on est dans Internet.
Alors, justement, faisons le lien avec ce qui est une autre idée reçue, alors peut-être un tout petit peu plus politique, mais qui n'est pas très loin de celle-là, qui est l'idée que Internet, c'est le triomphe de l'individu. Alors, donc, je dis idée un peu plus complexe, un peu plus politique, celle qui voudrait donc que les intermédiations aient disparu, c'est-à-dire que les individus se trouvent en prise directe avec les choses, avec les sujets, ou voire avec les gens. Et c'est aussi, je pense, une idée qu'on voit très souvent, enfin que moi j'avais entendu énoncer par les grands patrons des revues françaises, là, de débats, commentaires, etc., en disant voilà, c'est la disparition du contexte, la peur que le contexte ait disparu. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette idée reçue?
C'est la peur. Derrière, il y a la peur de la désintermédiation. Les hommes politiques sont terrorisés par cela, les acteurs industriels sont terrorisés par cela, donc on en voit... Oui, effectivement, il y a aussi lui qui est... Mais la question de la désintermédiation est extrêmement difficile à défendre. À mon avis, il faudrait plutôt parler d'une réintermédiation. Pour une agence de voyage qui disparaît, il y a un TripAdvisor qui se pointe. Pour un médecin qui a disparu... Enfin, un médecin ne disparaît pas, mais enfin, je veux dire, si on recherche par exemple des soins sur Internet, justement les intermédiaires classiques se mettent un peu dans la distance, mais ils ne disparaissent pas.
Et après, il y a qui fait intermédiaire alors? C'est
les autres. Il y a effectivement des formes d'intermédiation nouvelles qui peuvent exister, ce qui sont parfois des intermédiations hybrides. Là, je pense par exemple aux études qu'on a pu effectuer, Paola Tubaro et moi et d'autres, sur les communautés de patients sur Internet. Là, effectivement, on cherche les médecins qui sont les savoirs classiques, mais on cherche aussi le savoir de la communauté. Donc, les communautés sont les nouveaux intermédiaires. Mais il y a aussi des nouveaux intermédiaires qui viennent du marché. Les grandes plateformes, c'est des intermédiaires. Je pense, par exemple, aussi au type d'intermédiation, non seulement économique, mais sociale, qui peut être opérée par certaines grandes plateformes de socialisation à la Facebook, qui sont basées sur la métaphore de l'amitié. La métaphore de l'amitié veut dire aussi qu'il y a des recommandations d'amitié, qui vont nous recommander certains liens, certaines relations avec certaines personnes.
Ah oui, donc c'est eux qui deviennent comme des marieurs, en fait, des formes de marieurs.
Voilà, voilà.
Donc des intermédiaires.
Je me rappelle, par exemple, de Lévi-Strauss qui racontait, quand il était petit, que les professeurs incitaient les élèves à être amis entre eux. Et bien, aujourd'hui, peut-être les professeurs le font un peu moins, mais les algorithmes de recommandation de Twitter et de Facebook le font tout aussi.
Amel Guiton.
On a aussi probablement ce sentiment, parce que finalement, l'idée du triomphe des individus, elle est au cœur du projet politique d'Internet. Le projet politique d'Internet, c'était ça, c'était l'intelligence à la périphérie et c'était la société des égaux. C'est un projet qui est effectivement très libertarien. Alors après, la vérité des prix, c'est que le réseau a été rattrapé par le politique au sens très large et effectivement, comme le disait Antonio Cassilli, on a de nouveaux gatekeepers, hein, on a de nouveaux gardiens qui parfois remplacent les anciens, parfois les anciens aussi sont revenus sur le réseau. Mais on voit bien aujourd'hui comment par exemple notre rapport à l'information est complètement modelé par les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui ont accès à des articles, articles sur les sites de presse via Facebook et via Twitter, beaucoup plus que par un lien direct. Donc effectivement, les intermédiaires existent toujours. Et puis, moi, il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, vous l'avez un peu évoqué d'ailleurs, c'est l'idée de communauté. Parce que finalement, dans la société des égaux, l'idée de communauté, elle est très forte aussi. Hein. On le voit bien avec un texte comme la fameuse déclaration d'indépendance de John Perry Barlow dans les années 90.
96,
C'était finalement l'idée que la société dans laquelle on vit ne nous convient pas, donc laissez-nous tranquilles, on va refaire société ailleurs, avec nos propres lois. Et ça, on se rend compte à quel point, effectivement, ça modèle aujourd'hui la socialisation sur Internet, c'est-à-dire que Wikipédia est une communauté, par exemple, qui fonctionne avec ses propres règles, etc. Les communautés de hackers, ce sont des communautés, donc la notion de communauté est devenue extrêmement importante.
Et parfois, avec des systèmes de bureaucratie installés comme Wikipédia, qui sont ultra compliqués. Donc, Alors bon, on est obligé encore une fois d'aller vite. Un petit mot sur une autre idée reçue, alors très 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 forte, l'idée de la gratuité. L'idée donc que sur Internet tout est gratuit, que les gens ne sont pas prêts à payer ni pour regarder un film, ni pour lire la presse, etc. Le discours sous-jacent, il est intéressant aussi, c'est que on perd l'idée de la valeur des choses. Et même l'idée que les choses puissent avoir une valeur.
On récupère très vite cette sensation que les choses puissent avoir une valeur.
En payant son abonnement, par exemple.
Voilà, parce que justement, on est confronté désormais, et malgré ce discours sur le don sur Internet, sur la gratuité sur Internet, on est désormais confronté en 2014 à une variété de modalités tarifaires et de modèles d'affaires qui nous mettent aussi face au fait que derrière toute activité gratuite, il y a quelqu'un qui est en train d'exploiter la gratuité.
Mais c'est plus les mêmes, c'est ça, c'est moins visible.
C'est moins visible, mais quand même, si vous regardez, et là, je pense que Place de la Toile aussi a eu un rôle, le type de visibilité que désormais le discours sur le digital labor a aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de reconnaître que toute personne qui met à jour son statut sur Facebook ou qui fait une recherche sur Google est en train de donner des données, justement, à ces plateformes-là, et qui donc est en train de produire de la valeur pour ces personnes-là. Et donc la gratuité existe, mais jusqu'à un certain point, parce que quelque part, on est en train de compenser ce qu'on obtient d'une manière gratuite avec notre propre travail numérique. Après, il faut voir toujours s'il y a une manière de d'équivalence, s'il y a une équivalence entre ce qu'on met dans la machine, entre guillemets, et ce qu'on obtient par cette machine
c'est
même.
Mais c'est ce que dit très bien, effectivement, quelqu'un comme Evgeny Morozov, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, la principale unité de valeur sur le réseau, c'est la donnée, et c'est la donnée de l'utilisateur. Donc, effectivement, de toute façon... Alors, là où ça me semble effectivement assez complexe, c'est qu'en même temps, dans les idéaux des pères fondateurs, il y avait quand même cette idée de partage et cette idée de gratuité, notamment par rapport au code informatique. Dans les premières communautés hackers des années 50, c'était quelque chose de très fort. Donc oui, effectivement, c'est une idée qui n'est pas complètement fausse. Ceci étant... À partir du moment où Internet, maintenant, c'est chez tout le monde, il faut bien dégager de la valeur à un moment donné. Et donc, c'est la fameuse phrase qui est un peu caricaturale, mais qui est très vraie. Quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Il fallait quand même réussir à la caser. On dit que personne n'est prêt à payer, c'est pas complètement vrai, parce qu'on voit aussi émerger de plus en plus de modèles payants. Un journal comme Mediapart, par exemple, qui réussit à apporter la preuve qu'il amène une valeur ajoutée et que l'information qu'il produit a un coût, parce qu'il faut payer des journalistes pour aller la chercher, réussit à construire un modèle économique payant. Les plateformes de streaming qui font payer des abonnements pour qu'on puisse écouter des tas de morceaux sur nos smartphones réussissent à un moment donné à faire qu'il y ait de la valeur aussi quelque part. Donc c'est pareil, on est dans des ajustements aussi parce que les choses évoluent qu'on en est encore, je crois, qu'au début. En tout cas,
ça sera intéressant de voir quand Netflix arrivera en France, si tous les gens qui téléchargent illégalement, dont on n'est pas du tout représentatif autour de la table, vont s'abonner à Netflix. Il reste 2 minutes. La question de l'amitié. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux galvaudent de l'amitié? Est-ce qu'on peut encore parler d'amitié? Est-ce qu'il reste vraiment...
La réponse est oui, de mon côté. Oui, on peut parler d'amitié, mais en même temps, il faut bien s'entendre sur la nature de cette amitié. Encore une fois, j'en ai parlé dans les zones numériques. Andal Sué, plus récemment, il en a parlé dans son livre « T'es sur Facebook ». L'amitié change parce qu'elle devient surtout aujourd'hui une amitié performative et déclarative. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans lesquels il faut constamment donner un témoignage du fait qu'on est amis, il faut liker les choses des amis, il faut commenter, il faut se montrer.
Ça se mérite, l'amitié.
Justement, mais en même temps, c'est quelque chose qui change par rapport au type d'amitié qui était le lien des esprits de Montaigne et la Boétie. Voilà, c'est la question. Ce n'était pas deux esprits qui se rencontrent, mais deux personnes qui font toujours des choses ensemble. Ouais. Et après, il y a des éléments utilitaires qui peuvent s'intégrer avec l'idée d'amitié aujourd'hui. Le fait d'avoir accès au contenu des autres, au profil des autres, au fichier des autres, le partager, le partage.
Un petit mot à ma vie.
C'est les liens faibles aussi, Internet. Ouais. C'est le développement des liens faibles. Mais moi, ce que j'ai remarqué chez les blogueurs, par exemple, comme chez les hackers, c'est que beaucoup de gens qui nouent des liens en ligne éprouvent à un moment ou à un autre le besoin de se rencontrer dans le monde physique, comme quoi c'est peut-être deux niveaux différents, mais c'est pas séparé.
Bon, merci beaucoup. Alors, vraiment, je vous remercie de vous être livré à cet exercice qui est extrêmement compliqué, et je trouve que vous l'avez fait, c'était dur, il fallait parler vite, plein d'idées, etc. Mais je pense que voilà, c'est 10 idées reçues auxquelles on a accordé plus ou moins de crédit, mais en tout cas qu'on a essayé de discuter sérieusement. J'espère qu'on aura éclairé certains des auditeurs qui se retrouvent dans les énonciateurs de ces idées reçues. On se retrouve tous à des moments ou à un autre dans les énonciateurs de ces idées reçues. Donc merci beaucoup à tous les deux, vos références sont sur la page de Place de la Toile, où on peut aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. Donc je rappelle que le week-end France Culture sur la Toile continue jusqu'à dimanche soir, et le chanson Boom d'Hélène Azéra, qui recevra, donc je l'ai dit tout à l'heure, la Parisienne Libérée. Avant ça, Colette Felous fera un voyage là tout à l'heure au pays des geeks, puis François Angeli alors tentera un rapprochement assez fort quand même entre Internet et Marie-Antoinette. Vous verrez. Voilà, c'était Place de la Toile. Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique. C'était Jean-Frédéric, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture dans quelques instants. Elisabeth Tchungi poursuit donc ce week-end sur la Toile en parlant musique, machine et Internet. C'est sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.